Mais d'abord, on va aller rejoindre l'une des cinq ex-nageuses, donc, qui porte plainte. Elle s'appelle Chloé. Chloé Isaac, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je rappelle, vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez fait partie de l'équipe canadienne de natation, donc, artistique de 2005 à 2014. Vous aviez participé également aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Racontez-nous ce que vous avez vécu.
Oui, en fait, moi, quand j'ai commencé sur l'équipe nationale senior, en fait, j'avais 17 ans. C'est tout de suite installé un climat vraiment de pression, un climat très toxique dans lequel moi, j'avais énormément de pression. Et en fait, j'ai vraiment pas su gérer toute cette pression parce que, comment dire, le sport de niveau est extrêmement demandant, sauf que ce qui était demandé de nous était complètement déraisonnable.
Donnez-moi des exemples concrets.
En fait, y a la question du poids qui a souvent été abordée, où en fait, on avait des poids arbitraires qui nous étaient attribués et on avait 3 avertissements. Si on faisait pas ce poids-là lors de la compétition, en fait, on était sur le siège éjectable, donc on aurait pu ne pas participer, par exemple, aux Jeux olympiques. Moi, j'ai eu des épisodes de dépression où j'étais vraiment en détresse psychologique. Et en fait, Natation artistique Canada, pardon, n'a jamais reconnu, en fait, ma détresse, cette situation. Et c'est là où nous, on essaie d'améliorer les choses aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Alors, vous poursuivez, hein, vous et les 4 autres ex-athlètes, poursuivez Natation artistique Canada. Vous demandez, si je ne m'abuse, c'est 250 000 $, mais vous demandez surtout que Natation Artistique Canada reconnaisse ses torts pour éviter que de futurs jeunes athlètes comme vous vivent la même chose.
Oui, en fait, mon objectif à moi, c'est de déjà témoigner et de raconter la vérité. Ensuite, d'inviter les athlètes à témoigner également et à dénoncer, en fait, les abus et le harcèlement qui arrivent dans cette culture du sport toxique. Et voilà, j'invite vraiment les gens à dire la vérité. C'est vraiment assez. On peut plus vivre comme ça.
Parlez-moi des séquelles que vous vivez maintenant avec ça, là, à cause de ça.
Alors moi, j'ai développé des troubles alimentaires. Ça m'a pris plusieurs années avant de m'en sortir. J'ai consulté plusieurs thérapeutes. Ensuite, quand j'ai arrêté la synchro, j'étais vraiment dans une période de dépression où il a fallu vraiment que je me reconstruise, que je réapprenne ce qui est la vie, en fait, finalement, d'une jeune adulte, que je réapprenne à me faire des amis, à sortir, en fait, de ce milieu sportif. Et voilà, je pense que c'est des problèmes qui nous suivent par la suite dans notre carrière professionnelle, par exemple. On peut hein, s'en sortir. Moi, j'ai fait du chemin. Maintenant, je sais que je n'ai plus de troubles de l'alimentation. Ce n'est pas quelque chose qui reste avec nous, heureusement. Par contre, c'est des choses qui, oui, sur lesquelles il faut qu'on fasse attention toute notre vie.
Vous avez encore des cauchemars?
Oui, ça m'arrive encore d'avoir des cauchemars de ces périodes, justement, de mon temps sur l'équipe nationale.
Qu'est-ce que vous voyez dans vos cauchemars?
Je vous dirais que c'est une question très, très personnelle que vous me posez. Moi, je suis pas très à l'aise à révéler ça avec tout le monde. Par contre, juste le fait, qu'on revit de façon inconsciente ces événements, c'est très traumatique, en fait. Mais je pourrais pas vous partager.
Oui, mais je vous en parle parce que dans les documents qu'on nous a envoyés, les documents donc qui accompagnent la plainte, il y a une fiche qui vous concerne, donc, Chloé Isaac, 30 ans, etc. Et ce que l'on dit, c'est elle a des cauchemars avec Julie Sauvé au moins une fois par mois. Ses cauchemars sont parfois violents. C'est dans les documents qu'on nous a envoyés. C'est pour ça que je me suis permis de vous en parler. Moi, je ne voulais pas vous en exposer.
Effectivement, c'est la vérité. Je continue à avoir des mauvais rêves, oui, qui repassent des événements passés ou... Parfois, c'est j'aimerais pouvoir exposer la vérité et pouvoir finalement dire, avoir cette opportunité de parler et de dire ce qui ne va pas. Mais c'est vrai qu'on continue à vivre avec ça. Moi, j'ai encore des cauchemars quelques fois par mois.
Est-ce que vous avez porté plainte quand vous étiez nageuse? Est-ce que vous avez essayé de prévenir la direction de l'organisme de Natation Artistique Canada?
Alors oui, je n'ai jamais porté plainte officiellement. Par contre, j'ai averti mon entourage, l'équipe technique. Il y a eu plusieurs mails qui ont circulé, notamment de la part de mes parents, vers l'équipe technique de Natation Artistique Canada. J'ai jamais porté de plainte formelle parce qu'il faut comprendre que notre place n'est jamais sécurisée sur l'équipe olympique, peu importe en fait nos capacités athlétiques dans l'eau, si on ne fait pas si vous ne faites pas le poids, littéralement.
Oui, je comprends.
Vous pouvez être éjecté en fait à tout moment. Et donc c'est pour ça que j'ai jamais pu en fait dire la vérité sur le moment.
Sylvie Fréchette, championne olympique de natation artistique, vient nous rejoindre. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Écoutez, je suis troublée, Sylvie, parce que je lis les témoignages qui concernent celle qui a été votre entraîneuse, Julie Sauvé, et je reconnais pas dans ces témoignages la Julie Sauvé dont vous avez parlé lorsqu'elle est décédée il y a à peu près un an de ça, quand vous disiez que c'était votre deuxième mère qu'elle vous avait fait, qu'elle vous avait inculqué de très, très belles valeurs, qu'elle était très exigeante, mais qu'elle vous avait poussé à toujours être meilleure. Est-ce que vous avez été surprise d'entendre les témoignages de ces cinq athlètes qui, pour certaines d'entre elles, se sont entraînées avec Julie Sauvé, votre entraîneuse?
Malheureusement, non. Je ne suis pas surprise du tout. Et il faut comprendre que une personne n'est pas tout noir ou tout blanc. Puisque ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que Julie se retrouve mêlée dans le milieu de ça, mais je pense que c'est nécessaire. Déjà dans les années 80, les méthodes étaient très différentes, étaient très différentes d'aujourd'hui, mais très semblables, dans le sens que c'est un contexte aujourd'hui qui est différent. Mm-hmm. On comprend que ce qui se faisait avant était inacceptable. Maintenant, il semble que ces comportements-là aient perduré. Et que moi, ce que je trouve vraiment fou, c'est que les plaintes aient été faites et que ça n'a pas été appliqué. Quelqu'un qui a des comportements plus difficiles se doit d'être accompagné. On ne peut pas dire à quelqu'un, mais tu peux pas faire ça, OK, c'est correct, je le ferai plus, quand c'est des comportements qui existent depuis aussi longtemps. Donc, est-ce que je suis surprise d'entendre tout ça? Non.
Est-ce que ça vous est arrivé, Sylvie, quand vous étiez avec Julie Sauvé? Puis je tiens à préciser que Julie Sauvé n'est pas la seule entraîneuse là, qui est mise en cause par les allégations. C'est quatre ou cinq entraîneurs, entraîneuses qui sont mises en cause par les témoignages des cinq ex-nageuses. Est-ce que quand vous avez lu ce que Julie Sauvé avait eu comme comportement, est-ce que ça vous a rappelé des comportements qu'elle avait eu avec vous? Et est-ce que vous vous êtes dit, dans le fond, ce qu'elle faisait à ce moment-là avec moi, c'était pas acceptable?
Bien, tout à fait. Puis je suis certaine que vous, si vous preniez le temps de parler aux athlètes de l'équipe de 1996, je me souviens très bien à quel point on était pesés, mesurés. C'était comme ça. Il fallait être mince, il fallait tout qu'on pèse en bas de 130 livres, il fallait tout que, peu importe d'où tu viens, peu importe ton physique, peu importe ta grandeur, peu importe ta santé, c'était comme ça. Mais c'est encore comme ça et c'est là le problème. C'est là le problème. Est-ce que moi, je traîne des séquelles de tout ça? Oui, mais je suis une grande fille maintenant et je grandis et ma guérison se continue.
C'est quoi les séquelles que vous traînez, Sylvie, si vous permettez?
Sur mon poids, j'ai eu des troubles alimentaires, moi aussi. J'ai dû être traitée. J'essaie aujourd'hui d'être fière de moi, d'accepter que je mesure 5 pieds 11 puis je pèse plus que 130 livres. Puis que, comme me disait Erin, que j'ai une grosse poitrine, puis que j'ai une... C'est d'apprendre que c'est beau une femme en santé, que c'est beau une femme avec des courbes, de s'accepter comme on est. Et moi, je m'en donne une mission comme femme, un pour moi, qui est souvent la dernière à qui je pense très sincèrement, mais pour mes filles, je suis maman de deux belles jeunes femmes. Je suis entraîneur d'une quarantaine d'athlètes ici à Neptune Synchro. Je suis entraîneur d'équipe Québec. Je me dois de réfléchir à ces gestes-là, puis de guérir, puis d'être porte-parole des saines habitudes de vie. Donc, c'est... Mais Julie, elle était une entraîneur extraordinaire. Elle avait des qualités techniques au niveau de la stratégie et tout ça qui était exceptionnel. Mais il y a eu des côtés plus sombres qui se doivent d'être adressés. Parce que c'est pas seulement Julie, c'est une culture. C'est la culture du sport qui est à viser, qu'il faut changer. Et des athlètes qui déplorent à une fédération nationale, et la fédération nationale qui se targue d'avoir mis en place des politiques, mais qu'on pousse sous le tapis les plaintes qui sont faites par les athlètes. Pour moi, c'est là qu'il faut mettre la loupe. Et c'est là que le changement doit arriver.
D'accord. Chloé, vous êtes toujours là?
Oui.
Parlez-moi des commotions cérébrales. Honnêtement, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais 6 nageuses qui ont souffert de commotions cérébrales à quelques semaines d'intervalle, je trouve ça abominable. D'abord, expliquez aux gens qui vous écoutent comment on peut se faire une commo quand on fait de la nage synchronisée.
Ben, il faut comprendre qu'on est 8 athlètes en même temps à exercer des mouvements sur une chorégraphie. On est très proches l'une de l'autre, à moins de parfois 30 cm. Il y a des acrobaties aussi qui sont faites dans certaines chorégraphies. Donc, c'est assez commun finalement qu'on se reçoive un coup de coude ou un coup de pied sur la tête. Et malheureusement, les commotions prennent énormément de temps et de précautions à guérir. C'est des choses qui... sur lequel on peut avoir des séquelles, on le sait bien maintenant, sur le long terme. Et en fait, quand on n'apporte pas suffisamment de précautions de façon quotidienne et qu'on n'instaure pas des mesures de sécurité de façon quotidienne à la piscine, c'est là où ce genre d'accident peut arriver. Ce qui est encore plus grave, c'est de ne pas permettre aux athlètes de se remettre de ces accidents. C'est là qu'il faut vraiment qu'il faut porter attention.
Est-ce que vous avez été témoin de ça, vous?
Oui, moi j'ai vu des athlètes, moi j'ai jamais eu personnellement de commotion cérébrale, mais j'ai vu et c'est effrayant, il faut faire très très attention.
Non, je comprends. En tout cas, Sylvie Fréchette, je vais vous dire une chose. Moi, je me souviens de vous, la grande championne. On regardait ces compétitions-là avec beaucoup de fierté parce qu'on attendait la médaille. On était tous très très fiers de vous et des autres jeunes femmes qui étaient avec vous. Je vais te dire, quand tu lis les histoires d'horreur racontées par ces 5 ex-athlètes, je vais te dire, j'ai pas le choix que de déchanter, Sylvie, là. J'ai pas le choix que de déchanter, là. Tu te dis, ouais, la grâce, la beauté, le synchronisme des mouvements, le beau podium viennent d'en prendre un petit peu pour leur rhume.
Ben, je trouve ça dommage, sincèrement, de vous entendre parler comme ça, parce que ça n'enlève rien à la passion, à l'implication, à la volonté, à la charge de travail qui est investie par les athlètes. Donc, c'est qui on punit quand on revoit le sport comme ça, ultimement? Ce sont les athlètes. Puis je pense qu'ils en ont assez bavé jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est plutôt d'aller voir au niveau de la fédération, aller voir aux côtés des dirigeants, puis de dire, il faut que ça change. Qu'est-ce que vous faites pour mieux protéger les athlètes? On veut pas tuer un sport. On veut redonner la vie, redonner une bonne bouffée d'air frais à un sport qui, malheureusement, est très, très mal géré.
Et vous, vous maintenez que cette culture qui est dénoncée aujourd'hui est toujours en place actuellement chez Natation Artistique Canada?
Je vous confirme qu'elle est encore en place aujourd'hui même.
Ben là, je ne sais pas ce que ça va prendre pour la changer, cette culture-là. Je pense qu'il va falloir changer les dirigeants. Hein, Sylvie Fréchette, il va falloir commencer par ça.
Quand vous nous demandez qu'est-ce que ça va prendre pour changer, ben là, c'est un coup de grâce. En s'affichant comme ça, en allant, en créant une poursuite, en allant chercher de l'argent. Hein. C'est quoi le nerf de la guerre constamment? C'est de l'argent. Donc, une athlète à la fois, ça fonctionne pas. Isoler pour mieux régner a toujours bien fonctionné au niveau de Natation Artistique Canada. Donc, qu'est-ce qui reste comme solution? Une personne n'a aucun pouvoir, même pas ses parents. Ils se font dire, si tu parles, va te chercher un avocat avant même. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Les filles ne veulent pas parler.
Va te chercher un avocat ou on vient te faire sauter ta fille de l'équipe. Bye bye.
Exactement. Mais est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, M. Drinville, est-ce que vous pensez sincèrement qu'on est le seul sport à fonctionner comme ça?
Ah non. Non, ben non, évidemment pas. Donc, Sylvie, c'est pas la première fois qu'on a des scandales dans le sport. On en a eu avec le ski alpin, on en a eu avec plein, avec le patinage, avec le hockey. Combien d'histoires d'abus il y a eu? Mais honnêtement, la natation, la nage synchronisée, ce qu'on appelle aujourd'hui la natation artistique, dans mon esprit, c'est inconcevable, Sylvie. C'est inconcevable. Ce qu'on a ce que j'ai vu dans les bassins olympiques, ce que j'ai vu au fil du temps, puis ce que je lis aujourd'hui, pour moi, c'est comme, voyons donc, ça se peut pas, tu comprends? C'est un sport tout en beauté, c'est un sport avec beaucoup de grâce, beaucoup de, tu sais, de féminité, tout ça. Puis là, tu lis, écoute, les nageuses qui sont obligées de se faire bronzer, quitte à se faire brûler au soleil, pour qu'elles aient un beau teint au moment de la compétition. Pensez-vous qu'on regardait compétition, nous autres, aux Olympiques, puis on se disait que ces filles-là avaient été obligées de passer du temps au gros soleil, à se faire brûler la peau juste pour avoir un beau look? Jamais ça nous serait venu à l'esprit.
Mais c'est pour ça qu'on le dit.
Je
sais. C'est exactement pour ça qu'on en parle.
Je sais.
Qu'est-ce qu'on veut dans notre société? On recherche l'extrême maigreur. On ne veut pas voir les femmes qui vieillissent avec des rondeurs puis des rides. Mmh. On veut avoir l'air en santé. On est prête à se faire injecter n'importe quoi puis à se faire bronzer. Regardez les concours de musculation, là, les Miss Fitness de tout ça, là, qui se déshydratent puis qui se bronzent. Pourquoi? Ça définit la ligne, ça allonge, ça sculpte. Mais nous, on trempe là-dedans. Dans mon temps, dans les années 80, Julie voulait qu'on se fasse bronzer. C'était déjà comme ça. Sauf que quand on grandit dans cette culture-là, on dirait que ça devient une normalité. Mais juste pour reprendre vos mots, la natation artistique, imaginez-vous à quel point elle va être encore plus belle, plus gracieuse, plus puissante, plus synchronisée quand ça va être sain à l'intérieur des athlètes. Moi, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, la natation artistique mérite qu'on lui redonne, que les athlètes, en fait, que les nageuses se doivent de recevoir un appui pour qu'on puisse s'épanouir sainement enfin et qu'on devienne la natation artistique, un chef de file des sports qui se prend en main. Il faut que ça change. Puis la dernière chose que je voudrais, c'est qu'on crache sur mon sport. C'est pas mon sport le problème. C'est comment on gère le sport.
D'accord.
C'est ceux qui sont là qui mettent sous le tapis quand les athlètes et les parents se plaignent et qu'on dise non, ferme ta gueule ou sinon tu perds ta place. C'est là le vrai problème.
On s'entend là-dessus, Sylvie Fréchette, championne olympique de natation artistique. Merci beaucoup, Sylvie.
C'est un plaisir.
Chloé, Isaac, membre de l'équipe nationale, membre de l'équipe canadienne au moment des Olympiques de Londres en 2012. Bravo pour votre courage, Chloé. Bravo.
Merci.
Bravo, je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et j'espère surtout que vous aurez ces excuses, ces explications que vous demandez, que ça vous aidera à tourner la page sur ce qui s'est passé et à vivre une vie heureuse pour la suite des choses.
Merci infiniment. Nous, on le fait aussi pour les jeunes nageuses qui vont exercer ce sport dans les prochaines années. Donc, c'est ce qu'on espère pour elles.
Très bien. Bravo encore une fois. Salut.
Merci, au revoir.
Merci à vous deux. OK, après la pause, 790-9850, j'ai quelques minutes pour vous demander de réagir. Et je vais vous poser une question très directe. Est-ce que ces histoires d'intimidation vous découragent de pousser votre enfant vers le sport? Ces histoires d'intimidation, d'harcèlement, vous comprenez ce que je veux dire, le côté sombre du sport. Est-ce que vous entendez ça puis vous vous dites, non, moi, là, sais-tu quoi, je vais le pousser vers la musique, je vais le pousser, je sais pas vers quoi, mais le sport, il y a trop d'énergie négative à travers toutes ces histoires-là. Je suis curieux de vous entendre. 98985 par texto, courriel Drinville, la commerciale 985fm.ca. Plusieurs textos. Bonjour Bernard, ma fille est en patinage artistique de haut niveau. Elle a appris dès l'âge de 6 ans à vérifier son alimentation, s'assurer d'avoir un poids convenable. J'ai dû intervenir à de maintes reprises auprès de l'équipe d'entraîneurs. Au niveau des commotions, c'est horrible. Les patineuses se cachent, n'en parlent pas, par peur de manquer de temps de glace, de place sur la glace. La pression sur les filles au niveau des sports artistiques, c'est vraiment affreux. Vous êtes quelques-uns à me parler du plongeon également. Vous me dites, vous devriez aller voir du côté du plongeon, vous verriez aussi des histoires d'horreur. J'ai quelques personnes, par contre, qui me textent pour dire, écoute, l'histoire de poids, là, les joueurs de hockey se font peser, c'est du sport d'élite, qu'est-ce que tu veux, c'est exigeant. C'est ça. Tu vois, quand tu fais partie de l'élite, il y a des gros sacrifices à faire pour atteindre l'excellence, etc., etc. Il y en a un certain nombre parmi vous là qui n'embarquaient pas, n'adhéraient pas à ce constat. Vous dites, garde, c'est le prix à payer, dans le fond, pour être une athlète de haut niveau. Voilà, je dis pas que je suis d'accord, je rends compte de ce que vous m'écrivez. Dominique, bonjour.
Oui, bonjour, M. Drainville.
Je vous écoute.
Bon, c'est ça, ma fille a fait de la nage synchronisée pendant plusieurs années. Donc, on parle à un niveau régional, c'est pas un haut niveau. Et puis, c'est un sport qui est excessivement exigeant. Vous parliez tantôt là, que c'était un sport gracieux, c'était beau, j'étais surpris, mais pour rendre ça aussi beau, c'est vraiment de travail, c'est extrêmement difficile à faire comme sport. Puis, même à un niveau juste régional, là, c'était excessivement exigeant. C'était 25 heures d'entraînement intensif par semaine. Pour un enfant de 12 ans, là, on parle de jeunes ados. Là. Moi, j'étais vraiment pas d'accord, mais là, tu te retrouves à être entre l'arbre et l'écorce. Oui. Ta fille, elle s'estime parce qu'elle veut faire ce sport-là. Et puis là, tu te rends compte que ça, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour sa santé mentale. Beaucoup de pression. Et puis...
Êtes-vous intervenu, Dominique? Êtes-vous intervenu?
Oui, mais c'est difficile parce que c'est un sport qui est bien encadré. Puis c'est des entraîneurs qui sont... C'est pas des bénévoles, là. C'est des entraîneurs payés et donc ils sont bien organisés.
Puis tu veux pas nuire à ta fille, Dominique. Tu sais, c'est ça.
C'est exactement ça.
Tu veux la protéger. Tu veux la protéger parce que tu juges que c'est abusif, mais tu te dis, si mon intervention nuit, c'est ça, là.
Parce que votre fille, elle vous dit, ah, papa, je peux pas arrêter la nage. J'adore ça, c'est ma vie. OK, là, on rend la folle de là. Mais par contre, je voulais vous dire que je me suis retrouvé avec un enfant qui a un problème mentaire, hospitalisé l'année passée pendant quelques mois. Est-ce que c'est dû à la nage synchronisée? Je ne sais pas, mais là, c'est pour ça que j'ai réagi en entendant les témoignages que vous avez eus ce midi.
Avec des troubles alimentaires, dites-vous, votre fille a été hospitalisée à cause de troubles alimentaires?
Oui.
Ah oui, hein?
Oui, affirmatif, oui.
Oh boy, je suis désolé pour ça. Est-ce qu'elle va mieux maintenant?
Oui, elle va mieux, mais c'est des troubles excessivement difficiles à régler, là, qui traînent pendant des années. Là. Fait que, fait que là, est-ce que je peux dire que c'est exactement à cause de ça? Mais par contre, je peux vous dire, confirmer que c'est un milieu excessivement malsain. Parce que pour un enfant de 12 ans qui s'entraîne 25 heures, puis 25 heures, c'est pas juste là, c'est des gros entraînements, là, c'est difficile la piscine. Je mettais les gens au défi là, d'essayer de faire une pirouette dans leur piscine privée. Là.
D'accord.
Ils sont même pas capables.
Merci Dominique pour l'appel. Merci. J'espère que ça va bien aller avec votre fille. Je continue à recevoir beaucoup de textos. Actuellement, ce qui m'inquiète dans la reprise des sports, c'est le fait que les parents ne peuvent pas assister aux pratiques à cause de la COVID. On sait tout ce qui peut arriver quand les parents ont le dos tourné. On doit protéger nos enfants, me dit un papa ou une maman. Bonjour Bernard, Cédric qui vous texte. Pousser son enfant vers le sport ou autre activité, ce n'est pas sain. C'est à l'enfant de décider vers quoi il veut aller, pas à nous. Notre travail de parent, c'est de l'encadrer, de l'appuyer. Oui, je suis d'accord. Ça doit venir d'abord et avant tout de l'enfant. Il y en a qui me parlent des parents qui abusent parfois, qui veulent plus encore que leurs enfants. Ça aussi, on l'entend. J'ai une jeune et une petite fille. Je ne pousserai jamais mes filles vers le sport de compétition. Trop d'abus de leur vulnérabilité, trop de risques de créer des séquelles simplement pour gagner. Il y a d'autres valeurs que je préfère leur inculquer. Ah tiens, la gymnastique. Je suis une maman d'une fillette de 7 ans qui a fait de la gymnastique au niveau compétitif. J'ai été moi-même dans le monde de la compétition pendant 10 ans. J'ai subi la pression des entraîneurs, mais aussi de ma mère. C'est avec beaucoup de prudence que j'encourage à pratiquer son sport. C'est clair qu'avec son entraîneur ou son entraîneuse, elle pourrait perdre le plaisir. C'est ce que je comprends là. Est-ce qu'on a un autre appel? Oui, Mélissa, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très, très bien, je vous écoute.
Moi, ma fille était en gymnastique compétitif là, provincial. La pandémie a fait malheureusement qu'elle a dû arrêter. Puis finalement, ça n'a pas été une si mauvaise chose. En vous écoutant, je me suis rappelée de plein de conversations que j'ai entendues devant les enfants, devant les parents. C'était pas vraiment caché. Ma fille, elle a eu la chance là, d'avoir la morphologie que le sport demandait. C'est pas elle qui est meilleure qu'un autre. Là. Elle est venue au monde comme ça. Elle a juste été chanceuse. Mm-hmm. Puis, là, je me mettais dans la peau des autres enfants, des autres parents qui étaient à côté, qui, eux, étaient pas comme ça. Puis j'entendais tout le temps les mêmes commentaires. « Ah, toi, ça va bien, le muscle long, tout est parfait. Ah, les abdos à la bonne place. » Ma fille avait presque pas besoin de travailler, puis ça sortait. Elle était comme ça. Mm-hmm. Puis, on entendait des commentaires après les cours. On demandait des nouvelles, savoir si notre enfant avait bien écouté, tout ça, parce que des fois, ça reste des enfants. Puis, là, les entraîneurs disaient à voix haute, « Ah, ben elle, elle a jamais de problème. » C'est pas le cas de tout le monde, mais avec elle, on n'a jamais de problème. Puis là, je me disais... Moi, j'ai la chance de pas trop m'inquiéter sur les effets néfastes des commentaires de l'entraîneur, mais je me mettais dans la peau des autres parents ou des enfants, pire, les autres enfants. Je me suis dit, mais mon Dieu, tu sais, c'est pas leur faute. Les enfants sont venus plus au monde un peu plus courts, avec des muscles plus courts, plus trapus. Je veux dire, ils sont comme ça, là. Ils font.
Je pensais, Mélissa, que vous étiez pour me dire que le fait que votre fille performait bien lui avait attiré des commentaires de jalousie des autres parents, peut-être, ou vous-même.
J'ai déjà eu des regards bizarres, mais ça ne nous intéressait pas trop.
D'accord.
Mais c'est sûr que la petite adaptation de ma fille post-gymnastique, c'est que là, elle se rend compte qu'elle est plus tout à fait,
Elle n'est plus première automatique. Elle n'est plus première automatique. Elle doit se battre. Elle fait face à l'adversité. Mélissa, ça fait partie de la vie. Merci beaucoup pour l'appel. Vite, Maxime.
Oui, salut Bernard.
Salut.
Votre sujet m'interpelle. J'ai deux garçons. Mon plus vieux pourrait commencer les sports bientôt. Puis quand j'entends ça, je me pose des questions. Veux-tu vraiment le pousser là-dedans? Veux-tu y ajouter une pression additionnelle avec l'école puis tout ça? Ça laisse place à la réflexion.
Je vous comprends. En même temps, Maxime, vous devez vous dire, la vie est pleine de défis, de montagnes à monter, à grimper. Parfois, ça prend de l'effort. Peut-être qu'il faut le mettre dans le bain, justement, et le confronter aux difficultés qu'il va vivre par la suite. Hein?
Ah, je le sais, parce que le sport, en plus, c'est vraiment beau. C'est plein de belles occasions de se surpasser, de voir des gens. Non, c'est très beau.
Mais vous voyez les deux côtés de la médaille. Maxime, vous avez la réflexion d'un bon père de famille. Je vous souhaite bonne chance avec votre décision. Et puis, vous allez la prendre avec vos enfants, c'est bien entendu. Il faut que ça vienne d'eux d'abord et avant tout. Merci pour l'appel, c'est très apprécié. On s'en va à la pause. Et au retour, je vais vous parler de cette saisie. Près de 250 armes de poing qui s'en venaient chez nous, saisies à la frontière.